Bonjour, bonsoir, tout dépend de là où vous trouvez. Bienvenue sur Patati Patata. Je suis Armelle Niobel, Léo Léopard. Et pour ce nouvel épisode de Patati Patata, nous allons parler de lecture. Que lisent les femmes avec Técler et Kedi, une amie, une sœur qui fait beaucoup de choses quand elle ne lit pas. Elle est blogueuse, elle est écrivaine, elle est maman, elle est podcasteuse. Bon. Je sais pas, ça doit être, c'est un mot que j'ai créé, je sais pas sûr qu'il existe vraiment, mais bref, elle fait beaucoup de choses. Et quand elle fait pas tout ça, elle lit. Et c'est la raison pour laquelle je l'invite ici aujourd'hui, pour qu'ensemble nous parlons de lecture, qui l'ont inspiré, qui pourrait m'inspirer et qui forcément vous inspireront aussi. En tout cas, je vous le souhaite. Bonjour, bonsoir, Técler, comment tu vas?
Bonjour Armel, je vais bien, merci beaucoup pour l'invitation et pour la description très flatteuse, je trouve. Merci pour, c'est un plaisir d'être avec toi là, pour échanger aujourd'hui.
Alors, si tu nous parlais de toi, bon, je l'ai fait, ok, je l'ai fait, mais je reste toujours convaincue qu'on est jamais, on est mieux servi que par soi-même. Donc, tant qu'à faire, présente-toi.
D'accord, donc... En quelques mots, comme tu l'as dit, donc je m'appelle Técler Ekedi. Le plus connu sur Internet, on va dire, c'est Técler, mon prénom que j'utilise pour signer mes textes et pour échanger sur la toile. Donc c'est Técler et c'est aussi mon vrai prénom. Donc j'ai grandi au Cameroun. Un autre point commun que nous avons toutes les deux, j'ai grandi au Cameroun et juste après mon bac, je suis allée vivre au Sénégal pour continuer mes études universitaires. Mm-hmm. Et donc, j'y suis restée pendant 11 ans, 11 très belles années. Et depuis 3 ans et demi, bientôt 4 ans, je vis au Québec avec ma famille. Donc, je suis une maman de deux enfants, de deux filles et entre autres, donc, je suis rédactrice aussi. Mm-hmm. Et je travaille dans une société de marketing. Donc voilà, je pense que c'est un peu ça. J'aime beaucoup l'écriture et évidemment, par extension, les livres. Je pense que les deux sont intimement liés. Mm-hmm. Et je pense que c'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui sur la chaise de l'invité. Donc merci en tout cas pour cette opportunité de pouvoir échanger avec toi. J'aime beaucoup ce que tu fais et puis je suis sûre que ce sera une belle conversation.
Je n'en doute pas. Alors dis-moi, pourquoi tu lis? Tu aurais pu faire autre chose, tiens, tu écris, tu enregistres des podcasts, pourquoi la lecture?
C'est une bonne question, pourquoi la lecture? Je me suis jamais vraiment posé la question directement du pourquoi, en fait, c'était comme une évidence depuis enfant, en fait, depuis très très jeune. Je lisais beaucoup. Comme je disais tantôt, j'ai grandi au Cameroun et il y a une expression qu'on utilise souvent, c'est être enfant des barrières. Donc j'étais enfant des barrières, je ne me sentais pas beaucoup, quasiment pas en fait, quand j'étais beaucoup plus petite. Et même quand j'étais adolescente, hein, mes sorties étaient vraiment très... très millimétré, très chronométré aussi. Donc, les livres, en fait, c'était le meilleur moyen pour moi, quelque part, de socialiser. Oui. Et c'était une façon de me retrouver dans un univers sans avoir à me déplacer. Donc, je me déplaçais dans les histoires, je rentrais dans toutes les intrigues et... Au départ, en tout cas, c'est pour cette raison, c'est comme ça que la lecture est venue à moi. Mmh. Et après ça, je pense que avec le temps et les différentes étapes de la vie dans laquelle on peut se trouver, je lis en fonction de ça, quoi. Donc, quand je me suis retrouvée au Sénégal, je m'intéressais plus justement à des auteurs sénégalais pour comprendre un peu plus le pays. Mmh. Ou alors pour pour donner suite aux échanges que j'avais, parce que à l'époque je travaillais dans le secteur culturel, donc pour comprendre un peu mieux le fonctionnement, et même dans les échanges j'avais des recommandations de lecture d'auteurs sénégalais. Donc c'est vraiment selon les étapes de la vie dans lesquelles je me trouve, c'est ça qui donne un peu une raison à mes lectures, quoi.
Ok, tu nous donc, as dit... Tu nous as dit que au Sénégal, tu t'intéressais aux auteurs locaux pour mieux comprendre la culture. Quand tu étais jeune et que tu voulais t'évader, c'était avec quel genre de livre ?
Écoute, c'était un peu avec tout ce qui me tombait sous la main. Où j'avais aussi une inscription au fameux centre culturel français. Mmh. Et qui regorge de livres dans tous les domaines possibles. Et donc, quand j'étais très jeune, je me souviens, je lisais des livres des styles enquête policière de personnages masqués. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, Fantomède.
Oui, bien sûr.
Je me souviens très jeune. Oui, donc des livres un peu de ce genre-là. Je lisais aussi beaucoup de bandes dessinées. Mm-hmm. Ma tante avait une collection de vraiment de bandes dessinées, vraiment une collection qui ferait pas lire certaines personnes, pas lire ou rougir. Et je lisais un peu de tout, un peu de tout. Et j'étais encouragée par une de mes grand-mères, justement. Elle, sa phrase, c'était quand il n'y a pas de mauvaise lecture, en fait. Donc, tout ce que tu ce qui te tombe sous la main, en fait, il faut lire. Mmh. Donc, que ce soit les journaux, que ce soit... Mais pour en revenir à l'évasion, justement, c'était effectivement plus les livres, comme je disais, de type Fantomette ou alors les bandes dessinées.
Il y avait aussi le Club des Cinq, non ? Excuse-moi, il y avait aussi le Club des Cinq, non ? Ou c'était le Club des Sept, un truc du genre ?
Je crois que... Non, oui, il y a un truc du genre...
Bibliothèque verte.
Ah, c'était vraiment...
C'était ça, non, la bibliothèque verte. C'était ça.
Oui. Il y avait la bibliothèque verte, il y avait la bibliothèque rose. Non, c'était vraiment la belle époque, hein, mine de rien. Ça me rend nostalgique, là, de rien que d'y repenser. Et il y avait aussi, tout ce qui est venu bien après, tous les Harry Potter. Mais même avant les Harry Potter, il y avait les livres d'Alexandre Dumas ou de Jules Verne. Beaucoup de littérature française, hein, maintenant, quand j'y repense. Et on va dire l'influence du centre culturel français et aussi du système éducatif qu'on avait. Mmh. C'était un peu de ce genre de lecture-là qui était un peu aventure, parce que même les livres de Dumas, le Comte de Monte Cristo et tout ça, enfin, ce genre de livre-là, c'était vraiment... tu avais l'impression d'être au cœur de l'aventure, d'avoir traversé des époques, et puis... Non, c'est un bon moyen d'évasion. En tout cas, j'en garde de très, très bons souvenirs.
Par contre, j'ai pas envie de dire que je suis déçue. Parce que, bon, l'air de rien, j'appartiens à cette catégorie-là. Il n'y a pas eu d'Agatha Christie, ni de Harlequin dans ta bibliothèque de jeunesse. C'est bizarre.
On peut pas tout citer. Non, on peut pas tout citer. Mais Agatha Christie, par contre, non. Je ne sais pas. J'ai pas vraiment lu de Agatha Christie. Je ne comprenais pas trop. Enfin, pas que à l'époque, je comprenais pas trop la passion qu'il y avait autour de ces livres-là. Bon, je sais pas. Honnêtement, j'ai pas été attirée. Je me souviens d'avoir lu Mary Higgins Clark, mais bien un peu plus tard. Et c'était un livre qui retraçait plutôt son parcours à elle d'écrivaine et de maman, comment elle l'a fait pour arriver à écrire. Mm-hmm. Donc non, Agatha Christie, pas vraiment. Je connais son travail. Mais je ne sais pas, je pense que je n'étais pas portée, parce qu'on se laisse aussi porter des fois par des titres qui nous parlent plus, mm-hmm. ou je ne sais mm-hmm. pas, mais je n'ai pas vraiment lu de Agatha Christie. Par contre, les Harlequins, j'en ai lu quelques-uns, et évidemment, je veux dire un peu au secondaire, au lycée, J'en lisais quelques-uns, mais sans plus, quoi. J'ai lu aussi des Daniel Steele, mais je ne pense pas que ce soit des Harlequins, mais ça se rapproche un peu. C'est toujours les histoires d'amour ou un peu comme ça, je pense. Daniel Steele, lui, c'est des histoires d'amour. J'ai lu pas mal de Daniel Steele aussi. Et non, pas d'autres, comment dire, de Agatha Christie, quoi. Pas beaucoup de policiers. J'ai pas lu beaucoup de livres policiers, par contre.
Bon, alors, pour la petite histoire, je crois que de toute ma vie, j'ai dû lire moins de 5 Harlequins. La vérité.
Ah.
Non, je te jure.
Moi, j'ai lu plus.
Et quand je te dis moins de 5, je suis en train d'extrapoler, quoi. Mais c'est vraiment genre, je suis en train de tirer au maximum parce que... Pour moi, c'était tout le temps les mêmes, c'était le même cliché, quoi, tu vois. Donc, au bout d'un moment, tu sais comment ça va se terminer. Quel que soit X, Y, tu sais comment ça va se terminer. Et Agatha Christie, Mary Higgins, ou je sais pas qui d'autre tu as cité, je n'ai jamais lu. Mais bon, après ça, on est à l'ère du, on va dire, du développement personnel. Est-ce que tu penses que dans ta construction en tant que adolescente, en tant que femme, il y a un livre qui t'a accompagnée et qui t'a permis de structurer ta philosophie, ta pensée actuelle?
Je pense que si je dois remonter à l'adolescence, je n'avais pas vraiment de lecture ciblée comme j'ai maintenant, où j'ai la possibilité de faire vraiment un peu plus de recherche au-delà de la quatrième de couverture, où on a la description, j'ai la possibilité d'aller sur Internet, de lire un peu comment le livre est classé, d'avoir un aperçu des critiques, de lire un peu sur l'auteur, sur... sur son travail et sur l'histoire un peu plus même en profondeur avant d'acquérir le livre ou avant même de le lire. Je n'avais pas la possibilité là à cette époque-là. Là, c'est vraiment il y a quelques années que mes lectures sont un peu plus orientées. Mais avant, je dirais que les livres qui m'ont construit, je pourrais t'en citer quelques-uns. Il y a un en particulier, mais qui est devenu un peu une espèce de questionnement pour moi, parce que c'est un livre que je citais toujours quand on me demandait si tu devais citer 2 ou 3 livres préférés, lequel tu pourrais citer. C'est Aziza de Myriam Koko.
Aziza, et, tu dis
Je me souviens. Oui, Aziza de Myriam Koko, c'est le titre du livre.
Okay.
Il y a même un film qui a été adapté du livre. Mm-hmm. Et il n'y a pas très longtemps, justement, j'avais été challengée par, je ne sais plus si c'est par Anne Kedi ou c'est... Non, je pense que c'était par Befoun, de citer notre top 5, je pense top 5 de livres, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Et j'étais à deux doigts de le mettre et je me suis dit, ça fait longtemps que... Il y a quand même un long moment que je l'ai lu, un très très long moment, donc j'étais encore je devais avoir 14 ou 15 ans, mais le livre m'avait tellement marqué parce que j'avais eu un écho en moi par rapport à des situations que j'ai pu traverser et ce que le personnage principal traversait. Mm-hmm. Et en faisant des recherches dessus, justement, je me suis rendu compte que l'écriture celui qui a écrit le livre, il avait un regard colonialiste sur dans sa description, quoi, sur la façon dont il dépeignait la société, et apparemment c'était la société togolaise. Moi, j'avais toujours été persuadée que ça se passait au Cameroun, l'histoire. Mm-hmm. Oui, et alors que ça se passait en fait au Togo, et donc il y a eu tout ça là. Donc je me suis dit, et maintenant quand tu poses la question, c'est que les lectures que j'ai eues dans l'adolescence où devrait peut-être être revue, j'aurais pas la même approche que j'ai maintenant, j'aurais pas le même regard critique que j'ai maintenant, où là je lirais l'auteur et je dis là il est en train de faire, je sais pas moi, il fait du révisionnisme, ou il est en plein mansplaining, ou je sais pas, tellement de notions en fait que je ne comprends que maintenant. Donc je peux citer ce livre là que je pensais qui m'a quand même apporté quelque chose, hein. qui m'a aidé à comprendre des pans de mon histoire, une partie de mon histoire. Et sinon, il y a le livre, un livre qui est vraiment très bon pour justement pour donner envie de se battre, d'aller de l'avant, et qui en fait ouvre vraiment la voie pour en tout cas les jeunes qui l'ont lu. Je pense que les jeunes femmes qui l'ont lu, ça a dû avoir cet effet là de se dire que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas y arriver, qu'on peut pas gravir, enfin surmonter les obstacles. C'est le livre Anna de Paul Lucelizer qui décrit en fait la célèbre Anna. Je sais pas le nom de famille là, ça me vient pas en tête. Ceux qui l'ont lu, je pense que ça va leur dire quelque chose, mais qui parle en fait grosso modo d'une femme en fait qui vient d'une famille juive qui en a bavé et qui finit par s'en sortir, mais vraiment qui devient une des femmes les plus puissantes de la société dans laquelle elle évolue. Et non, ça c'est un livre aussi qui m'a beaucoup marqué et qui m'a permis en fait de me dire que je ne pensais pas encore aux causes des femmes ni quoi que ce soit, mais je voyais quand même qu'il y avait des inégalités dans la société. Rien que le fait même déjà quand je vais au Cameroun, je me souviens m'être fait refouler d'un bâtiment parce que j'avais mis un pantalon, oui, qu'il fallait pas être en pantalon, il fallait être en jupe ou quelque chose comme ça. Donc du coup ce genre de livre là m'a montré que non, que c'était possible en fait d'aspirer à beaucoup plus et quelque part d'avoir les mêmes droits que les hommes, quoi. Mm-hmm. À force de volonté.
Non. Ok. Donc, en tout honneur, hein, tu as anticipé une question. Tu en as parlé tout à l'heure, mais tu as anticipé une question que je comptais te poser et que je te pose quand même. De toute la littérature que tu as lue, ne te sens pas restreinte. Hein. Tu peux, même si c'est. Oui, à l'époque où je ne sais quel autre livre maintenant, lequel tu recommanderais, si tu as un top 5 de livres, lesquels tu recommanderais et pourquoi?
Ok. Donc, ouais, ça c'est un top 5 où vraiment va falloir sélectionner. Bon, ça veut pas dire que les autres livres que j'ai lus ne peuvent pas être dans le top 5.
Bon, si je peux te rassurer, hein, c'est parce que je savais que tu aurais envie de parler de plusieurs livres. Sinon, je t'aurais dit un seul. Donc, ne chipote pas, hein. Les autres auteurs ne sont pas cités, ce n'est pas parce que leurs livres sont pour raf, on est bien d'accord, mais c'est parce que dans l'absolu de l'absolu, il fallait chercher 5. Et on va dire que, en sachant que notre mémoire nous trahit souvent, c'est ceux auxquels tu as pensé au pif, au paf. Donc, you have the floor.
Ouais. Donc déjà par rapport aux recommandations, oui, c'est ça. Je voulais juste mentionner quelque chose. Si quelqu'un vient vers moi pour me demander une recommandation d'un livre, je vais toujours savoir en fait, essayer de savoir ce que la personne recherche et si je connais bien la personne et dans quel stade de sa vie se trouve là, je pourrais faire la recommandation genre vraiment en étant sûr que ce livre-là aura un impact sur cette personne, quoi. Mm-hmm. Et sinon, si je devais faire mon top, bon, je vais plutôt parler des livres que j'ai lus il n'y a pas très longtemps, comme ça ma mémoire ne va pas me jouer des tours. Donc je citerai, allez, je vais citer le livre Nectar, mm-hmm. qui m'a beaucoup marqué, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, là, je pense en début d'année je l'ai lu. Mm-hmm. Un cadeau d'ailleurs d'une très bonne amie. donc c'est le titre c'est Nectar de Upile Chisala. Mm-hmm. Et c'est un recueil en fait de poèmes et qui parle en fait de sororité, de femmes noires et de ce que nos mamans ont pu vivre avant nous, et ce qu'elles nous transmettent, ce qu'elles ne souhaitent pas nous transmettre aussi. Et c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup touchée. Et si on est vraiment dans une démarche de comprendre, que ce soit l'éducation qu'on a reçue en tant que personne afrodescendante, je pense la personne qui va lire le livre va se reconnaître. C'est vraiment plus une recommandation, je veux dire, pour les femmes. Pour moi, c'est vraiment un livre écrit pour les femmes. Parce que les femmes afrodescendantes, on a une espèce de destin commun, on se retrouve beaucoup dans nos histoires. Mmh. Et donc je recommande celui-là. Il est vraiment, il est très apaisant aussi en même temps. Il est très, il remonte beaucoup l'estime personnelle, je trouve.
Oui.
Et c'est aussi, il est très valorisant. Donc il y a celui-là que je recommanderais. Mmh. Il y a, pour continuer toujours dans une atmosphère douce, il y a l'odeur du café que j'ai lu il n'y a pas très longtemps aussi, de Dany Laferrière, qui est un auteur haïtien et qui prend en fait, c'est son enfance en fait à lui qui raconte, mm-hmm. Mais avec la voix d'enfant en fait. Donc c'est vraiment très agréable à lire, les questionnements qu'il a, et aussi on a vraiment l'impression d'être en plein cœur de toutes ses premières expériences quoi. Et c'est un livre en tout cas qui m'a apporté beaucoup de douceur, je trouve, même en le lisant c'était très agréable. Quand il fallait que je retrouve le livre, je savais que j'allais passer un moment. Voilà, c'est comme une caresse en fait. Mm-hmm. Donc ça, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc là, je suis à combien ? Je suis à deux ? Ok.
Deux.
Donc il y a aussi un autre livre. Là, c'est d'une auteure qui est d'origine nigériane. Elle est américaine. D'origine nigériane, mm-hmm. Qui s'appelle Nnedi Okorafor. Mm-hmm. Elle est assez connue pour les personnes qui s'intéressent à la littérature fantastique, à l'afro-fantasy ou à l'afro-futurisme. Elle a écrit pas mal de livres. D'ailleurs, une de ses œuvres sera peut-être adaptée en film bientôt, donc on croise les doigts pour elle. Mm-hmm. Binti, c'est une trilogie qui est vraiment, pour ceux qui aiment ce style-là, ils vont vraiment prendre plaisir à lire le livre. Je l'ai lu en anglais, par contre, je ne sais pas si la traduction, mais je suppose, parce que ces livres sont quand même pas mal traduits. Donc, je l'ai lu en anglais sur Kindle, en fait.
Oui.
Et pour ceux en tout cas qui seraient intéressés, qui voudraient le lire en anglais, peut-être qui hésitent sur le niveau d'anglais, il y a une possibilité avec Kindle normalement, si on lit sur une tablette, enfin moi je lis sur la tablette, pas sur la tablette de Kindle même. Mm-hmm. Il y a une possibilité d'utiliser une application, je pense, supplémentaire pour faire de la traduction, mais c'est toujours de la traduction dans la même langue, mais avec des mots plus faciles.
D'accord.
Donc, ce livre, il est vraiment, je le recommande pour ceux qui aiment ce type de littérature. Ça parle d'une femme en fait qui est en quête de, on va dire, en quête de, voilà, son identité dans le sens, pas son identité, ce qu'elle est, mais ce qu'elle doit devenir. Et il y a tellement, on retrouve beaucoup de thématiques, que ce soit l'égalité entre hommes et femmes, que ce soit tout ce qui tourne autour de l'héritage familial, de la transmission, de l'appropriation culturelle. Il y a vraiment tellement de thématiques traitées. C'est un livre excellent, en tout cas. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup... Ça m'a fait m'évader. Mm-hmm. Et voilà. Et donc, je suis à 3 là, c'est ça ?
C'est cela.
On va y arriver à 5. Donc, l'autre livre aussi que je pourrais recommander, j'hésite entre deux. Je vais dire Tituba, parce que je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. Mm-hmm. Et je pense que il parlera également un peu plus, je veux dire un peu plus aux femmes, mais pas seulement aux femmes, parce que ça permet de comprendre aussi le contexte historique de l'époque. Donc ça se passe à l'époque de l'esclavage, et en même temps ça montre à quel point les femmes ont dû porter des étiquettes et ont payé le prix cher, alors que forcément c'était pas de, elles étaient pas, comment dire, là on parle de sorcières, mm-hmm. alors que c'était pas une sorcière au sens négatif du terme comme ce qu'on peut voir aujourd'hui. Donc c'est une femme qui a une enfance, on va dire, qui commence un peu heureuse, et puis après, avec les réalités de l'esclavage, tout bascule. Mais malgré cela, elle essaie toujours, elle reste, il y a beaucoup de résilience, et elle essaie malgré tout, même si le sort s'acharne sur elle jusqu'au bout. Mm-hmm. Ça, c'est un très bon livre. C'est un très bon livre d'ailleurs qui avait, je l'ai connu en fait parce que j'écoutais un podcast qui s'appelle La Poudre, mm-hmm. et qui parlait justement sorcière. Et sorcière dans le sens où comment l'histoire aussi a étiqueté plein de femmes. Et continue d'ailleurs de le faire, hein, qui mettent des étiquettes et puis qui font en fait que beaucoup de femmes sont diabolisées, soit à cause des choix qu'elles font, mm-hmm. ou des causes pour lesquelles elles s'engagent. Donc ça aussi, si on est dans cette démarche-là de comprendre un peu plus... de comprendre un peu plus l'histoire des femmes, ou si on veut s'engager, ou si on se rend compte des inégalités du système et tout. Je pense que c'est un très bon livre, en tout cas, que je recommanderais. Mais il faut être prête, quoi, parce qu'il y a vraiment, il y a aussi beaucoup de violence. Il y a aussi beaucoup de scènes. C'est pas un film, mais quand on lit, des fois, c'est comme si on regardait un film.
Tout à fait.
Il y a des passages. Il y a beaucoup de passages qui sont très, très violents.
Ok.
Et donc là, je suis à 4, je suppose.
Oui.
Et donc, j'hésite. Je voulais quand même citer une auteure camerounaise. Et maintenant, je me rends compte que c'est un peu dans la même thématique que Tituba, sauf que c'est plus... je pense que c'est... Même les hommes... même pour Tituba... Hein, que ce soit homme ou femme, je pense que c'est une lecture que je recommanderais si on est dans une certaine recherche, justement. Et donc, voilà, l'auteur camerounaise que je sais, c'était Leonora Miano, mm-hmm. celle qui a écrit La Saison de l'Ombre, et que j'ai beaucoup, mais vraiment beaucoup aimé, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment, c'est très bien écrit, c'est presque musical, en fait. Mm-hmm. C'est, waouh, j'ai eu une claque. Et je suis contente que j'ai commencé, parce que j'ai un autre livre d'elle que j'ai pas encore lu. Avoir commencé par celui-là, en fait, ça m'a déjà donné une très bonne impression de départ. Donc, du coup, ça me donne envie d'en savoir un peu plus sur ce qu'elle écrit. Et elle aussi, c'est en écoutant le podcast La Poudre que j'ai entendu parler de ce livre-là et que j'ai eu envie de le lire, de l'acquérir et de le lire. Et c'est une histoire, en fait, ça se passe dans un village côtier, ça se passe en fait au Cameroun. Mm-hmm. Et c'est justement à l'époque du début de la traite, de la traite négrière. Et ça met en scène, en fait, ce qui se passe en fait dans le village, c'est qu'il y a des personnes qui disparaissent, des initiés. Comme par hasard, ce sont les mères qui sont soupçonnées d'avoir, fomenté quelque chose pour... Donc, c'est elles qui sont mises à l'écart au début.
Oui.
Donc, de la société quand leurs enfants disparaissent. Et ce n'est pas des bébés qui disparaissent, c'est je ne vais pas dire adultes, parce que c'était des initiés. Donc, je ne saurais dire exactement la tranche d'âge, mais ça devait être peut-être un peu avant la vingtaine. Et qui disparaissent. Et là, y a différentes personnes du village, de la tribu, qui se mettent en marche pour essayer de résoudre le mystère, quoi. Mm-hmm. Et j'ai beaucoup aimé. Il y a un mélange de fantastique. Mm-hmm. Et puis, il y a vraiment la présence de tout ce qui est esprit. Et puis, ce qu'on pourrait qualifier de magie. Mais c'est vraiment, quand on a grandi en Afrique, il y a, quand on lit, enfin je veux dire en Afrique, c'est un grand continent là, mm-hmm. mais quand on a grandi au Cameroun, puis quand on a été baigné dans la culture Sawa, il y a tout ce qui est l'eau, les peuples de l'eau et tout ça, le lien qu'il y a avec, Et non, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai vraiment eu l'impression. Et puis, elle utilise beaucoup les termes aussi, Douala. Donc, je me suis vraiment retrouvée vu que je suis Douala et tout. Donc,
ceci n'est pas un secret.
Pardon ?
Je disais, ceci n'est pas un secret.
Oui, oui. Oui, donc je me suis vraiment retrouvée. Je me suis retrouvée, en fait, en tout cas dans ce qu'elle disait. Et c'était vraiment très intéressant. Dans certains termes qu'elle utilisait, qui sont évidemment traduits, hein, qui sont expliqués et tout. Et non, c'était une très belle, très, très belle lecture, très agréable malgré la douleur de l'histoire. Mm-hmm. Elle a vraiment une qualité dans sa plume. Enfin, qui s'explique parce que après, je suis aussi allée lire sur elle. Elle fait aussi un peu de musique, donc on comprend tout à fait son style littéraire. Donc voilà, je sais pas à combien je suis. Est-ce que je suis à 5 ou à 6?
Le compte est bon. Le compte est bon.
Saison de l'ombre. Ah oui, j'ai dit Bimsi aussi. Oui. Ok, bon ben ouais, je suis à 5 et je pourrais encore citer plein d'autres, mais ceux-là, je pense que pour l'instant, en tout cas, ils font partie d'un de mes tops parce que j'ai plusieurs tops évidemment. Mm-hmm. Et sur le coup, c'est ceux-là auxquels je pense vu que je les ai lus il n'y a pas très longtemps. Voilà.
Ok. Alors, un petit point sur ce que tu as cité de livres. Je pensais en fait quand tu parlais de Léonora que tu évoquerais Rouge Impératrice parce que sur les réseaux sociaux, tous ceux qui suivent l'actualité littéraire africaine et tout, j'ai vu le livre passer encore et encore et encore et encore et encore. Et je pensais que c'est celui-là que tu évoquerais. Est-ce que celui qui en attend de lecture, c'est Rouge Impératrice ou c'est un autre?
Non, c'est pas... Parce que Rouge Impératrice, en fait, il est sorti il y a pas longtemps, hein, je crois.
Mm-hmm. Tout à fait.
Est-ce que c'est 2019? On est en quoi là? Ah, on est en 2020.
En 2020.
Je pense que Rouge Impératrice est sorti il n'y a pas très longtemps. Et non, celui que je... Non, c'est Les Aubes Écarlates. Je ne l'ai pas encore lu. Celui que... enfin, qui est en attente de lecture. Quoi. Okay. C'est Les Aubes Écarlates. Et si je dois lire un prochain pour elle, j'ai vu aussi Blues pour Elise, qui est souvent recommandé. Donc, maintenant, Rouge Impératrice n'est pas encore dans ma liste. Et j'attends. J'attends de voir ce que je vais lire là. Et le truc aussi qu'il faut signer, c'est que je vis au Québec et que les auteurs afro-descendants, c'est pas évident de les trouver dans toutes les librairies. Et surtout, je pense que ses livres sont beaucoup plus distribués aussi en France. Donc, il faudrait que je commande, et vu qu'on est dans une réalité de fermeture des frontières et tout, je pense que ça va pas être évident, même si je devais le commander. Et celui que j'ai, en fait, ceux que j'ai réussi à les avoir parce que je les ai achetés dans une librairie qui est ici, qui s'appelle Librairie Racine, qui est tenue par une femme noire d'ailleurs, mm-hmm. qui met en avant la littérature des auteurs issus des minorités. Donc ici, les minorités sont considérées minorités, tout ce qui est minorité visible, donc ceux qui sont afro-descendants, mmh. Et aussi la littérature inclusive. Donc c'est vraiment là-bas que je me suis approvisionnée. Et là, pour l'instant, Rouge Impératrice n'est vraiment pas sur ma liste. Donc déjà, il faut que je termine ce que j'ai, et puis après, on verra bien.
Ok, mais déjà, j'ai noté Librairie Racine pour ceux des auditeurs, auditrices qui sont au Québec et qui galèrent pour trouver des livres d'afro-descendants ou d'auteurs issus des minorités. Alors, un fait marquant, quand je regarde ta liste, que ce soit pour les livres que tu recommanderais dans l'absolu, ou des livres qui t'ont marqué. La femme revient. Est-ce que c'est un hasard? Déjà, je sais que non. Déjà, je réponds même avant que tu n'aies répondu. J'ai fait un tour sur ton Twitter parce que j'avais l'impression de l'avoir vu Mais je me suis dit, deux vérifications valent mieux qu'une. Je suis reparti sur ton Twitter. Et entre autres choses, il y a femme. Donc, je suppose que ceci n'est pas le fait du hasard.
Oui. Oui, non. Non, non, c'est pas le fait du hasard parce que si j'ai monté avec toi d'ailleurs une plateforme qui donne la parole aux femmes, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Je suis en tout cas dans une démarche actuelle où j'essaye de comprendre un peu plus comment la société qui m'entoure fonctionne et je ne peux pas fermer les yeux en fait sur tout ce qui est injustice, voilà, tout ce qui est injustice, tout ce qui est injonction au silence et tout. Donc oui, non, c'est pas un hasard, je veux dire, c'est vraiment pas un hasard, parce que le contenu que je consomme, en fait, me pousse vers ce type de livres-là, pour l'instant, en tout cas, des livres qui sont écrits par des femmes en majorité. Donc on verra bien ce que l'avenir nous dira.
Et je vais t'emboîter le pas, justement, parce que j'ai l'impression que je suis plus ou moins dans la même phase. Commençons avec Tituba. C'est un livre qui est dans ma bibliothèque. Je l'avais acheté après avoir lu Sorcière, parce qu'il en était fait mention. Et je pense que tu as dit quelque chose de très important par rapport aux femmes. J'ai toujours pensé que c'est important de savoir d'où on vient. Il est important de savoir comment comment le monde a décidé.
Comment le monde s'est façonné.
Oui, voilà. Comment le monde s'est façonné à notre désavantage. Comment la société a décidé un autre désavantage. Et ce qui est superbe avec le cas des femmes noires ou le cas des minorités, des femmes issues de la minorité visible, du moins on va dire ça comme ça, de ceux qui n'ont pas le rayonnement que tu vois. Ceux qui ne font pas partie des canaux de beauté ou des canaux de féminité conventionnels, c'est vraiment intéressant de voir à quel point on a décidé pour nous, de voir à quel point on nous a ghettoisés, si je peux dire ça comme ça. Et lire permet vraiment de comprendre jusqu'où on est allé. Et je trouve vraiment intéressant ces références et n'hésitez pas si vous vous posez des questions sur vous en tant que femme, en sachant que les inégalités, la marginalisation et tout ce qui va avec n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé il y a très longtemps. Que ce soit des paroles avec les sorcières, comme tu disais, que ce soit avec l'esclavage, que ce soit avec la colonisation, que ce soit avec le capitalisme, que ce soit. Bref. Les racines du mal ne datent pas d'aujourd'hui et c'est vraiment important parce que on est de plus en plus dans les discussions et c'est beaucoup plus intelligent quand les arguments sont motivés par des faits plutôt que par des oui-dire. Donc, si vous avez la possibilité, vraiment, cherchez ces livres, que ce soit Tituba, que ce soit Sorcière, que ce soit Le ventre des femmes, que ce soit Faisant de l'ombre.
Je n'ai pas encore lu sur ma liste, moi.
Ventre des femmes, je te promets, il est superbe. Françoise Vergès, elle a fait un excellent travail de recherche. C'est un livre pour toutes les femmes qui se posent des questions sur... Par exemple, dans Le ventre des femmes, elle évoque une histoire sombre de la France qu'ils ont acceptée il y a très peu de temps. C'est le fait qu'à un moment, en métropole, on encourageait les femmes à la procréation, alors que dans les dom-tom, c'était stérilisation et avortement à tour de bras, quoi. Tu vois, mais c'était vraiment une industrie de dépocréation, permettez-moi l'expression, dépocréation des femmes noires, et après elle t'explique comment est-ce que le ventre des femmes noires était géré pendant l'esclavage, quoi, tu vois. Et quand tu regardes des trucs, quand tu prends du recul, tu te dis mince. Et moi je me rends compte que depuis que j'ai commencé, les problèmes ont commencé dans ma vie, entre guillemets, quand j'ai ouvert Sorcière de Mona Chollet. J'ai ouvert Sorcière et elle fait tellement de références à d'autres bouquins que j'étais en mode, ben, il faut que je cherche le livre ci. Oui, il faut que je cherche le livre ci. Et ça fait que, alors, dans Sorcière, elle a parlé de les putains du diable, elle a parlé du ventre des femmes, elle a parlé de Tituba. Donc, ça fait que je me suis dit, il faut que je cherche parce que je veux vraiment comprendre, quoi. Donc, je te le recommande plus. Je te promets, tu sortiras de là. Tu sortiras de là avec une autre vision avec une autre vision des politiques de gestion du ventre des femmes ou des femmes noires tout court. Donc, après cela, si bien sûr il y a des livres que tu recommandes, je suppose qu'il y a des livres que tu ne recommanderais pas.
La question piège. Non, honnêtement, je pense, je suis intimement, en tout cas, convaincue que chaque livre, c'est comme on dit au Cameroun, chaque chaussure, c'est ça. Chaque chaussure a son, chaque cordonnier a son chaussure ou a sa chaussure ou je sais plus trop quoi. En tout cas, il y a un proverbe comme ça.
Trouver chaussure à son pied.
On trouve en tout cas, toute chaussure à son pied, voilà. Donc, je ne pourrais pas dire à quelqu'un de ne pas lire ça. Plutôt, moi, je pourrais dire ce qui a été des lectures difficiles ou pénibles. Mais selon les contextes, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment selon les contextes. Si quelqu'un vient vers moi par rapport à ce qu'il traverse ou à quel stade, je vais toujours demander à la personne, okay, qu'est-ce que tu recherches, si tu veux que je te demande, qu'est-ce que tu recherches, si c'est un apaisement, si tu es dans une phase de questionnement. En tout cas, c'est toujours comme ça que ça se passe dans les conversations avec mes amis. Si la personne me dit, ça peut être juste même que ce soit les rapports d'amitié ou les rapports familiaux tendus ou telle n'est pas comme ça avec moi, pourquoi moi j'ai l'impression de me donner, là je donne juste un exemple, mm-hmm. Moi j'ai l'impression de trop m'investir dans les relations et j'attends toujours des retours qui ne viennent pas. Moi à un moment c'est clair, j'étais aussi dans ce questionnement là, et il y a les 4 accords Toltec qui m'ont beaucoup aidé et que je recommande justement quand je sens que j'ai des personnes, quand les personnes me disent oui, je suis dans cette phase-là de ma vie. Donc je dis ok, lis ce livre-là, je suis sûre que ça, tu vas y trouver la solution, quoi, ou tu auras un certain apaisement. Je pense que chaque livre répond à un certain besoin, comme tu le disais. Tout à l'heure, quand tu m'as posé la question sur l'évasion, quand j'avais un besoin d'évasion, je disais tel type de livre. Maintenant, c'est clair que si tu n'es pas dans un besoin d'évasion et que tu prends un livre et que tu cherches peut-être un livre, aller de développement personnel ou bien un livre historique, et puis tu vas lire Fantomètre un livre d'enquête, un livre policier, c'est clair que tu ne vas pas être content. Donc, il n'y a vraiment pas
tout
pas
ça
que je vais te déconseiller.
Oui, elle a noté qu'elle a, elle a poliment évité de répondre à la question. Mais alors, s'il y a des livres que, tu ne peux pas décourager quelqu'un de lire un livre, ça je peux comprendre, parce que à the end of the day, on accroche ou on n'accroche pas. Et ma mauvaise expérience peut se révéler être une bonne expérience pour quelqu'un d'autre. Donc, évitons de le décourager avant même qu'il ne s'est fait sa propre idée. Je peux comprendre, je le conçois.
C'est ça.
Ouais. Au moins, il y a des livres pour lesquels ça a été difficile, au moins.
Oui, de rentrer dans l'histoire. Il y a des livres, mais qui ont aussi de bons retours ailleurs, hein, je précise. Donc, du coup, c'est vraiment une expérience personnelle. Je me souviens, là, sur le coup, j'avais essayé de lire Half of the Yellow Sun de Chimamanda Ngozi Adichie. Et je crois que je n'ai même pas pu le terminer. Bon, j'étais aussi dans une phase de déménagement et je crois que je devais rendre le livre ou quelque chose comme ça. Mais d'habitude, je lis assez vite. Et j'avais eu du mal à rentrer dans l'histoire. J'ai commencé, c'était vraiment intéressant à un moment, mais après, je sais pas, j'avais comme un blocage. Donc il y a ce livre-là, ça, le souvenir le plus frais que j'ai. Et aussi, c'est parce que je l'avais lu juste après avoir lu Hibiscus pourpre, mm-hmm. qui est aussi Chimamanda, que j'ai vraiment adoré, quoi. Et je ne sais pas si j'avais les mêmes attentes. Et j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans le livre. Et aussi, je pense que des fois, on est aussi pollué par... Quand il y a une adaptation cinématographique, des fois, ça vient un peu polluer notre esprit. Donc, du coup... donc, j'étais un peu... Je dois dire, j'aimerais retenter le coup avec le livre, là, d'ailleurs. Mm-hmm. J'aimerais bien retenter le coup, réessayer de le lire, mais je sais que j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Et je me souviens aussi d'avoir essayé de lire Tolkien. Si je me trompe pas, oui, Tolkien. Et j'avais pas pu, je sais pas, je pense que il était beaucoup peut-être dans la description ou quoi, et puis j'ai pas pu aller jusqu'au bout, quoi. Donc c'est les deux auteurs qui me viennent en tête là. Quoi d'autre? J'avais pensé aussi à une autre, mais sauf que je me souviens vraiment pas de son livre. J'avais essayé de lire quand je dis Tolkien, c'est bien J.R.R. Tolkien, celui qui est derrière le Hobbit. Par contre, les adaptations cinématographiques, j'ai adoré. Hein. Et j'aime beaucoup tout ce qui est dans ce style littéraire-là. Mais là, je sais pas, j'avais pas accroché quand j'avais commencé. Mm-hmm. Et il y a aussi, je me souviens un peu c'est quel livre, mais un des livres de Thalys Béala. J'avais essayé de la lire, en fait, parce qu'elle était très médiatisée à l'époque. Et j'ai pas pu. J'ai pas pu aller au bout. Là, je parle des livres que j'ai vraiment pas pu terminer, quoi. Mm-hmm. Donc, sinon, je suis sûre que ça... Il y a plein de personnes qui viendront dire le contraire. Ces lectures-là, mais moi, voilà, c'est mon expérience personnelle.
Ok. Quel est ton rapport avec les livres? Est-ce que tu es le genre possessif ou c'est entre guillemets l'amour libre?
Je suppose que tu parles de si j'arrive à facilement à prêter mes livres ou pas. Ça dépend. Donc, je suis dans une phase, en tout cas, où les livres que j'essaie d'acquérir, déjà, ce sont des livres un peu rares, là où je vis. Mm-hmm. Comme je te disais, pour l'instant, il y a une librairie, une seule librairie dans laquelle je trouve ces livres-là. Mm-hmm. C'est vrai que je peux faire commander sur Amazon, et sauf que ça ne viendra pas forcément du Canada. Il faudra attendre... soit la disponibilité, soit le délai. Mm-hmm. Donc, c'est pas les mêmes enjeux. Là, je pense que j'ai un devoir de transmission avec mes enfants. Et donc, j'essaie vraiment de me constituer une bibliothèque qui, plus tard, leur servira à elles. Donc, non. Donc, pour l'instant, en tout cas, je suis dans un stade de ma vie où je fais très attention à mes livres. Donc, et même, j'essaie de transmettre ça à ma fille aînée qui n'a que 3 ans, c'est vrai. Mais elle sait déjà que les livres, c'est pas les jouets, qu'on déchire pas les livres. Bon, c'est clair qu'elle a eu sa phase quand elle était bébé où elle a déchiré. Bon, heureusement, c'était pas mes livres. C'était des petits livres à elle. Mais ce n'était pas des livres que je considérais des livres rares, c'est des livres qu'on trouve facilement, donc heureusement, parce qu'elle a d'autres livres pour enfants que je considère être vraiment des pépites, quoi, qu'il faut bien conserver, qu'elle va aussi transmettre à sa petite sœur et après aux plus jeunes de la famille par extension qui viendront après. Donc oui, non, pour l'instant c'est vraiment histoire d'amour et puis je fais attention.
Est-ce que tu es du genre à écrire dans les livres ou tu es du ou c'est plutôt les marque-pages?
Tu connais déjà la réponse, en effet, c'est des
questions comme ça, hein. Je connais la réponse, mais
oui.
ça me fait toujours rire d'entendre les gens dire que okay. Ah non, le livre pour moi c'est trop sacré, je peux pas écrire dedans. Et moi je dis de toutes les façons, moi j'écris dedans et c'est toujours aussi sacré. Donc bon.
Oui, c'est clair. Non, chaque personne a son approche. Ça n'enlève pas, ça n'invalide pas toi ce que tu fais, pas du tout. Non, je vraiment marque-page. J'en ai quelques-uns et puis c'est ce que j'utilise pour justement pour me retrouver. Ou alors j'utilise aussi des fois le système des post-it, donc des post-it de couleur. Donc, quand il y a par exemple une citation qui m'a marqué, ce que je fais, c'est que je mets le post-it et puis j'écris sur le post-it cette citation, l'extrait qui m'a marqué.
Okay.
De temps en temps, je prends aussi des photos de la page, mais sinon, non, j'essaie vraiment de préserver les livres au maximum, ne pas plier les pages. Et s'il y a du texte dessus, ça peut être soit une dédicace au début ou si je veux me rappeler si ça a été vraiment un cadeau ou que la personne n'a pas écrit quelque chose. C'est vraiment au début, juste après la première de couverture, la page qui précède des fois la préface.
Ouais.
Là, je peux écrire un petit mot dessus. En tout cas, c'est une page blanche la plupart du temps. Je n'écris pas dans le livre. J'utilise les marque-pages.
Ok. Si aujourd'hui je devais me rendre chez toi, je tomberais sur quel genre de livre dans ta bibliothèque?
On va dire un peu de tout. Hein. Bon, déjà ce que j'ai cité dans mon top 5, quoique Bean, si je l'ai juste dans mon. Je l'ai dans mon application Kindle. Donc. Mais sinon, pour ce que j'ai cité plus haut, Tituba, Nectar, L'odeur du café, La saison de l'ombre, c'est plutôt une amie qui me l'avait prêté, donc c'est pas dans ma bibliothèque. Ce type de littérature aussi, Born a Crime de Trevor Noah, quoi d'autre? J'ai dû refaire, je dois mentionner quand même que j'ai dû refaire, parce que le fait de vivre, j'ai vécu au Cameroun où j'avais commencé à constituer ma bibliothèque, que c'était les livres qu'on apprenait, les livres qu'on lisait au programme scolaire et ensuite des livres qui m'ont été offerts et des livres que j'ai achetés moi-même. Ensuite, le fait d'avoir déménagé au Sénégal, je ne pouvais pas déménager avec tous mes livres. Et après ça, le fait d'avoir quitté le Sénégal pour venir au Canada aussi, c'est la même histoire. Donc du coup, je repars vraiment de zéro là. Et j'ai aussi, donc ces livres-là et aussi des jeunes auteurs aussi, je pourrais citer, il y a Aftal, j'ai son livre dans ma bibliothèque, Le bruit du silence. Qui est vraiment c'est des chroniques en fait, vraiment c'est vraiment de vraies pépites. Pour ceux qui suivent son blog, vous allez retrouver sa plume là-dessus. Et je pense qu'il y a plus de facilité pour d'avoir son livre pour ceux qui sont ceux qui sont en Afrique. Je pense qu'il y a plus de facilité d'avoir son livre vu que lui vit beaucoup. Il y a pas mal de jeunes auteurs. Il y a le livre la bande dessinée. J'ai pas mal de livres illustrés aussi. Donc il y a Kiro, le premier tome. J'ai pas encore acquéri les autres. Qui est vraiment un magnifique livre illustré qui est en fait une déclinaison du jeu vidéo en livre illustré, en bande dessinée. C'est vraiment, les dessins sont vraiment, c'est magnifique. Et quoi d'autre? Donc là, je parle des livres illustrés, je continue. Il y a La vie d'Ébène Encore une autrice, là c'est une autrice camerounaise plutôt, une BDiste camerounaise. Mmh. Et j'ai aussi pas mal de livres pour enfants. Je pense que je peux les citer aussi, c'est des livres illustrés aussi, où la représentation pour moi a vraiment une très grande importance. Donc je veux que mes enfants se retrouvent dans ce qu'ils lisent. Donc j'ai Comme un million de Papillon noir de Laurent Safo, Sous-loué, qui a été écrit par Lupita Nyong'o et puis illustré par Vashti Harrison. Mm-hmm. J'espère que c'est Harrison, hein. Oui, je crois que c'est Vashti Harrison la dessinatrice. J'ai La dernière pluie aussi. Je reviens sur une jeune autrice camerounaise et amie, Ben Muriel. Mm-hmm. Ça c'est dans ma bibliothèque. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je suis sûre que j'ai oublié certains livres. En tout cas, oui, c'est un peu ça. Je suis en train vraiment de reconstituer. Il y a des livres que je n'ai pas encore lus aussi. Mm-hmm. J'ai un livre, je pense, de Maya Angelou que je n'ai pas encore lu. Donc voilà, c'est un peu ça. Je reconstruis ma bibliothèque petit à petit. Et puis bon, voilà.
Ok, tout à l'heure tu parlais de transmission, tu parlais de représentation en référence à tes enfants.
Ouais.
Tu les destines à quel genre de livres?
Je ne dirais pas que je les destine parce que c'est la. Mais oui, j'essaie de constituer une bibliothèque pour eux, je veux dire, où en fait, pour l'instant. Ma fille, comme je disais, ma fille est née à 3 ans, les illustrations pour moi ont beaucoup d'importance, et pour elle aussi, puisqu'elle est dans l'âge là, et je veux en fait qu'elle se voit dans les personnages, donc qu'elle comprenne déjà qu'il y a les personnages divers, donc toutes les couleurs de peau, qu'elle puisse les retrouver, toutes les textures de cheveux, qu'elle puisse les retrouver. Donc, ce que je fais en fait, c'est que j'essaie de regarder tout ce qui est publié. Mmh. et je fais ma sélection selon les disponibilités. Donc, selon les disponibilités qu'il y a, que ce soit en librairie ou en ligne. Donc, en fait, c'est ça, je me dis, je vais vers les lectures même que ce soit pour le quotidien, parce que comme je le disais tantôt, pour moi, on lit toujours par rapport à un stade de sa vie, en tout cas moi, c'est mon expérience personnelle, mm-hmm. on cherche à apprendre par rapport au stade de la vie dans lequel on se trouve. Et par exemple, pour un petit exemple, pour la propreté, l'hygiène, mm-hmm. Pour qu'elle arrête de mettre les couches, oui, je cherchais des livres aussi. Je cherchais des livres. Et j'étais tombée sur un magnifique livre, d'ailleurs. J'espère que j'en parlerai sur les materins, un de ces quatre. Et le livre, en fait, c'est une petite fille noire, avec les cheveux et tout, et qui apprend, en fait, la propreté, qui apprend à arrêter de mettre la couche, à faire pipi dans le pot. Et c'est un livre vraiment ludique parce qu'il y a un bouton pour appuyer la chasse d'eau. Donc, quand j'ai vu le livre, et évidemment, il y avait deux versions. Et j'ai pris la version où elle est vraiment représentée, quoi. Parce que je me suis dit, il faut qu'elle se reconnaisse. Donc, du coup, je fais quand même attention à ça, à ce qu'elle soit représentée, en fait, dans les livres. Et quand je dis représentation, c'est effectivement qu'il y a des personnes, noires, afro-descendantes, et qui aussi des personnes d'autres couleurs de peau. Il n'y a pas de problème, mais il faut qu'elles soient aussi là.
Ça, tu parlais des livres pour quand il fallait apprendre la propreté. Ça m'a fait penser à ma propre expérience. Comme mon fils est né, quand j'étais enceinte de mon cadet. Pour préparer psychologiquement l'archange à l'arrivée de son petit frère, j'avais acheté Choupi à ton petit frère, et tous les jours je le lui lisais vraiment pour lui dire, tu vois maman, a le gros ventre, il y a un bébé, tu auras bientôt un petit frère, tu vois. Et j'ai réitéré la même expérience quand son petit frère est né. Cette fois-ci, effectivement, c'était, il fallait apprendre la propreté. Et j'avais, je crois, j'avais acheté Choupi Vaopo.
Ok.
Donc, oui, je témoigne de ça, effectivement. Pour les enfants et pour les grands, je suis d'accord que les livres répondent, aident à répondre à une étape dans laquelle on se trouve. Donc,
oui, tout à fait.
Je plus sois. Et est-ce que tu penses que, d'une manière ou d'une autre, tu les pousseras, entre guillemets, c'est pas vraiment le mot que je voudrais, tu les imprégneras, voilà, je trouve que c'est beaucoup plus ça, je crois que c'est beaucoup plus ça, tu les imprégneras de l'histoire des femmes.
Oui, hein, forcément. Je pense que quand on est femme, déjà à la base, c'est comme ça que la société nous a catégorisés, donc on n'y échappe pas trop. Maintenant, il faut qu'elles sachent c'est quoi les réalités, c'est quoi l'histoire. Je pense que c'est très important de savoir d'où on part, même si l'histoire est douloureuse. Hein, c'est vraiment, il faut... On n'a pas trop le choix. Il faut avoir toutes les cartes en main de son côté et ne pas prendre en fait pour acquis les privilèges qu'on a aujourd'hui. Il faut savoir être reconnaissante. Voilà. Et c'est un devoir de mémoire aussi de connaître l'histoire des femmes qui sont passées avant nous, des femmes même dans notre famille même. Des femmes dans notre famille, ça permet de comprendre les dynamiques, pourquoi on a reçu telle éducation, ça permet de faire la paix avec soi-même aussi. Et non, c'est clair que j'en parlerai fréquemment avec elles et puis et les lectures qu'elles verront, en tout cas qu'elles auront à la maison. Maintenant, après, elles vont faire leur propre choix. De lecture, il n'y a pas de problème quand elles seront en âge de le faire. Et même là, avec la grande, bon, avant qu'il y ait le lockdown, le confinement et que tout soit fermé, on l'avait inscrite, elle était déjà inscrite à la bibliothèque. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on choisissait un livre pour elle et elle choisissait un livre elle-même. C'est vrai qu'elle est encore très jeune, mais au moins... Et puis bon, on veille à ce que ce soit évidemment dans la catégorie enfant et tout. Et oui, déjà lui montrer qu'elle a cette liberté-là. Et ensuite, après aussi, lui donner l'amour d'autres types de lectures. Oui, définitivement, hein, je partagerai ce pan de l'histoire avec elle parce qu'il faut savoir, il faut qu'on sache, il faut qu'on se documente, qu'on s'instruise sur l'histoire, notre histoire déjà, l'histoire des femmes et l'histoire du pays dans lequel on vit aussi. Donc tout ça, je pense que je ferai le maximum pour qu'elles en soient imprégnées.
Ok. Est-ce que tu voudrais aborder quelque chose dont on n'a pas discuté?
Aborder ou est-ce que le mot de la fin peut-être, je sais pas.
En termes de lecture, en termes de lecture, peut-être que tu voulais parler de quelque chose et puis je t'ai pas posé la question dessus.
Là sur le coup, j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé. Non, sur le coup, j'ai parlé des jeunes auteurs. Non, il y a rien qui me vient en tête là. Non, je pense que j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé déjà. Donc, non, il n'y a rien qui me vient en tête sur le coup. J'avais plutôt... je m'étais notée de dire quelque chose pour la fin, mais non, il n'y a rien qui me vient en tête tout de suite. Bon, sauf, les lectures... Il y a beaucoup de gens qui disent en fait qu'ils n'aiment pas lire... je voulais juste mentionner que la lecture, c'est pas seulement dans les livres en fait. les bandes dessinées aussi, c'est de la lecture. Moi, j'ai appris à lire justement sur une bande dessinée. Mm-hmm. Is No Good, je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un. Le calife, il va être calife à la place du calife. Mm-hmm. C'est là-dessus que j'ai appris à lire avant d'entrer à l'école, avant d'apprendre les sur les livres qu'on avait. Je me souviens à l'école primaire au Cameroun. Je pense que tout le monde peut lire. Tout le monde peut lire. Tout le monde ne peut pas être passionné du même type de lecture. Mais ça n'invalide pas le fait il n'y a pas une lecture en fait qui est moins valable qu'une autre. Pour moi toutes les lectures apportent quelque chose, que ce soit les Harlequins qui sont souvent catégorisés, que ce soit ceux de notre époque vont peut-être s'identifier, que ce soit les SAS, parce que je me souviens il y avait beaucoup de gens qui disaient, en tout cas à mon époque, quand on lisait les SAS, c'est un, qu'on n'aime pas la lecture, et deux, c'est qu'on est futile, quoi. Mais en fait, non, c'était des livres... parce que moi, après, j'ai lu ça bien après, parce que justement, j'avais tellement peur de tomber dans cette catégorisation-là que j'étais là à m'accrocher à « Non, il faut que je lise tel auteur super connu ou qui a vendu tel best-seller ou je sais pas, moi. » Tel auteur qui était bien vu, en fait. Les SAS, c'était très mal vu, déjà, parce que l'illustration de la première de couverture, c'était toujours, toujours des personnes... comment dire, c'était toujours des femmes.
C'était soit, des femmes dans une posture assez, assez bizarre avec des armes. Oui.
Oui. Mm-hmm. Voilà. Donc, et pourtant, honnêtement, c'était du texte, donc il y avait du vocabulaire. Il n'y avait pas de faute, donc déjà c'est toujours bon pour l'orthographe, et puis c'est vrai que ça répondait à un vocabulaire d'un certain domaine, que ce soit l'espionnage ou alors voilà. Et non, il ne faut pas qu'on se dise que on est un mauvais lecteur parce que on lit juste un type de littérature, ou bien toutes les lectures se valent. Et puis surtout, il faut pas avoir honte. Si on veut les partager, il faut les partager. Il y aura toujours une personne que ça va intéresser ou que ça va peut-être inspirer, qui sait. Donc vraiment, faut pas ghettoiser. C'est une espèce de, je sais pas si le terme est bon, mais c'est une espèce de ghettoisation d'un certain type de lecteurs et qu'on catégorise, et qui même après s'auto-catégorise, qui vont te dire ah non, moi j'aime pas lire, hein, je lis seulement les bandes dessinées. Tu lis les bandes dessinées, mais il y a du texte sur les bandes dessinées, ça raconte une histoire, ça fait travailler l'imagination, la créativité. Tout ce que d'autres lectures en fait apportent, tu vois, quand tu peux rechercher l'évasion dans un roman, mais tu peux aussi trouver l'évasion dans une bande dessinée.
Tout à fait.
Dans les dialogues, tu peux comprendre la culture, tu peux quand je vois par exemple Kiro, rien que les vêtements et puis toute l'histoire, ça fait beaucoup penser justement à la culture afro, avec les coiffures, avec les... Si tu n'es pas de cette culture-là et que tu lis, tu apprends un peu plus sur ça, même en consommant ce type de contenu-là, quoi. Donc, oui, c'est un peu ça que je pourrais rajouter aussi pour encourager les personnes qui se disent que ah, la lecture, c'est pas pour moi, et parce qu'elles ne lisent pas... tout ce qui a, je sais pas moi, prix Goncourt, ou bien qui a gagné le tel ou tel prix, ou est best-seller, qu'elle ne lise pas. Si c'est toutes les lectures sont valables, pour moi en tout cas.
Je pense que c'est sur ces mots qu'on clôturera notre entretien. Ça me fait également penser au dernier épisode que j'ai enregistré avec Manouchka, qui disait la même chose. Il n'y a pas de lecture savante, même si c'est le quotidien national que vous lisez. Vous lisez. Même si c'est une notice de comment monter le berceau, vous lisez. Donc ne réduisez pas vos lectures, parce que ce n'est pas de l'aéronautique. Ne réduisez pas vos lectures parce que elles n'ont pas l'air intelligentes. Vous lisez, et c'est le plus important. C'est vraiment le plus important. Ne pas se mettre la pression à se dire oh, j'ai tel ami qui lit plus un genre de bouquin. Lisez. Tu parlais, par exemple, des SAS. Moi, je me souviens, Joe, justement, je ne lisais pas les Harlequins, mais j'étais à fond dans les SAS, quoi. Parce que les SAS, les histoires qui sont relatées sont basées pour la plupart sur des faits réels, tu vois. Donc, ouais, moi, ça faisait que moi, j'étais au monde, mais malcolage, mais c'est genre, quoi. Les gens fantasmaient sur 007, moi c'était Malcolm Lynch, quoi, parce que mais c'était l'espion de ouf, tu vois. Et ça m'a permis d'avoir une certaine culture dans certains domaines. Et quand je ne lis pas, tiens, la dernière fois je regardais sur Netflix un truc sur, sur le Mossad, quoi, tu vois. Donc, juste pour te dire à quel point on ne se rend pas compte, et tu le disais, ça permet de forger notre imagination, ça nous permet de nous évader et ça peut t'aider à développer un certain intérêt pour certains domaines. Et en plus, on n'est pas fait pour aimer les mêmes choses. Si on aimait les mêmes choses, comment est-ce qu'on apprendrait les uns des autres? On n'apprendrait rien du tout. Donc, ça, on s'enrichit dans la diversité. Tu vois, donc...
Donc, si tu me permets, je voulais aussi rajouter juste, parce que enfin, je viens d'y penser là, mais aussi ce qu'on consomme aussi sur les réseaux sociaux, parce qu'on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, c'est très chronophage, et on passe vraiment beaucoup de temps dessus. Ce qu'on lit aussi dessus, ça aussi son importance, quoi. Ça fait aussi partie des lectures, parce que si on est abonné à des blogs, si on est abonné à des journaux ou à des rédacteurs, ça aussi, c'est ce qu'on consomme aussi, c'est quelque part, c'est aussi des lectures. Moi je mettrais ça aussi. Donc si on souhaite en tout cas lire ou s'intéresser à tel ou tel domaine, mais il faudra s'abonner peut-être à des personnes qui écrivent sur tel ou tel sujet et ça fera aussi une lecture supplémentaire, quoi. Autant allier l'utile à l'agréable.
Tout à fait.
Je voulais juste rajouter ça.
Tout à fait. C'est donc sur ces mots qu'on va clore cette fois-ci. Merci beaucoup, Téclair. J'ai ma liste d'achats s'est rallongée, c'est sûr. C'était un bon moment, mais malheureusement, il faut se séparer, parce que ce qu'il y a de pire avec les livres, c'est que quand on commence, on ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas s'arrêter. C'était un échange très enrichissant. Merci d'avoir accepté mon invitation et j'espère que tes lectures, comme elles m'ont inspiré, comme elles m'ont décidé à coucher sur papier les bouquins que j'achèterai de ce que tu as partagé avec nous, c'est de la même manière que les auditeurs et auditrices feront la même chose et auront la même démarche. Merci, Téclair.
Merci à toi.
Merci à vous. Prenez soin de vous. Au revoir.